Vous écoutez, on lit pour vous.
Étude sur le racisme systémique dans les écoles yukonaises. Un texte de Gwendoline Le Beaumain, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale au Yukon. Récemment, le bureau du Défenseur des enfants et de la jeunesse du Yukon, YCAO, et la Direction de l'éducation des Premières Nations du Yukon, YFND, ont lancé une étude portant sur la discrimination et le racisme dans l'éducation au Yukon. Cette étude examinera la manière dont le racisme est un facteur et l'impact qu'il a sur les élèves autochtones et les autres élèves de couleur au Yukon. La Commission de l'éducation des Premières Nations, CEPN, a soulevé la question de la nécessité d'un examen du racisme systémique dans l'éducation et a délégué des fonds pour mener cet examen. Elle a ensuite demandé à la YFND de réaliser une étude et a formulé une demande officielle au YCAO pour qu'elle assure la défense individuelle et systémique des enfants et des jeunes victimes de discrimination et de racisme, peut-on lire dans un communiqué publié par le YCAO le 27 mars 2024. Une fois l'examen terminé, le rapport sera partagé avec les Premières Nations du Yukon, rendu public et déposé à l'Assemblée législative au printemps 2025. Le racisme systémique dans les écoles. Annette King, défenseur des enfants et de la jeunesse du Yukon, rapporte que le racisme systémique ne se limite pas au comportement d'une personne, mais concerne les politiques, les institutions et les structures qui ont été construites sur la base de pratiques racistes et qui ont un impact long et durable, à la fois conscient et inconscient. Il s'agira d'un examen unique, parce qu'il compilera également tous les rapports précédents qui ont identifié des problèmes liés à la discrimination et au contrôle de l'inclusion, ainsi que certaines données et des chiffres, explique-t-elle. Le YCAO et le YFND parcourront le Yukon au cours des prochains mois afin d'entendre les récits et les expériences des élèves, des familles et des communautés. Un sondage en ligne a également été lancé. Annette King attend de la part du gouvernement de l'action. Nous voulons que des mesures soient prises pour que les jeunes soient au premier plan et qu'une dynamique d'action et de changement soit mise en place. La défenseur constate les conséquences d'une éducation non inclusive tous les jours. Les conséquences sont le désengagement des élèves, l'abandon précoce, les atteintes à la santé, l'absence de rêves et d'objectifs pour les élèves lorsqu'ils ne croient pas qu'ils puissent atteindre leur plein potentiel. Les jeunes ont besoin de sentir qu'ils ont leur place, où qu'ils aillent, et les écoles sont parfois des lieux difficiles pour cela. Lorsque cela fonctionne, c'est tout simplement magnifique, et lorsque ce n'est pas le cas, c'est un crash potentiel. Et dans les écoles francophones? Marc Champagne, directeur général de la Commission scolaire francophone du Yukon, CSFY, rapporte avoir été inclus dans les communications en lien avec cette révision. On a aussi exprimé notre soutien pour cette étude et notre intention de collaborer au besoin pour faire avancer ce travail, avance-t-il. Le sondage en ligne n'est pas offert en français. Selon le directeur de la CSFY, il y aurait eu intérêt à traduire le sondage et le rendre disponible en français. Aucune étude n'a été réalisée sur le racisme systémique au sein des écoles francophones, selon Marc Champagne. On sera certainement intéressé de voir les résultats de cette étude, voir ce qu'il en ressort, puis voir justement qu'est-ce qu'on pourrait mettre en place pour s'assurer que nos élèves prennent conscience du racisme systémique? Comment ça peut nuire à certains groupes? Je pense qu'on, la CSFY, a déjà fait beaucoup de travail par rapport aux Premières Nations, quant à l'aspect réconciliation, conscientisation, éducation des élèves. Je vois comment ceci peut s'enchaîner par rapport à ce travail. Je pense que c'est une des choses qu'on veut identifier avec cette étude. Voir quels éléments sont en place en ce moment et qui peuvent peut-être contribuer au racisme systémique. Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour changer le système, changer les politiques, changer les procédures, changer les façons de faire pour éliminer ou minimiser les effets de discrimination et de racisme dans notre système, ajoute-t-il. On appuie cette initiative. C'est important pour le système de l'éducation au Yukon. Depuis trop longtemps, on sait que certains groupes sont défavorisés dans notre système. Alors, c'est un travail très important. On applaudit cette initiative, conclut le directeur. Lecture simple. Le racisme systémique, c'est quand les règles et les structures de la société créent des inégalités à cause de la couleur de la peau des gens, entre autres. Cela veut dire que certaines personnes sont désavantagées juste à cause de leur origine. Cela peut toucher plein de domaines comme l'éducation, l'argent qu'on gagne, les chances d'avoir un travail, de trouver un logement ou même d'avoir accès aux services publics. Le racisme systémique se voit de plusieurs façons. Par exemple, quand la police arrête plus souvent les gens de certaines origines ou quand il est plus difficile pour eux ou pour elles de trouver un logement ou un travail. Les personnes autochtones et celles de communautés minoritaires sont souvent touchées de façon plus importante que les autres. Ça veut dire que, même si tout le monde devrait être traité de la même façon, ce n'est pas toujours le cas. C'était « Études sur le racisme systémique dans les écoles yukonaises », un texte de Gwendoline Lebaumin, paru le 18 avril 2024 dans l'Aurore boréale au Yukon.
Natacha Canapé-Fontaine, Canatout. Une entrevue réalisée par la rédaction parue en juin 2024 dans le carnet Je lis autochtone. Natacha Canapé-Fontaine est une écrivaine, poète et artiste interdisciplinaire innue, originaire de Pessamit sur le Nitassinan, Côte-Nord. Ses œuvres poétiques et ses essais sont reconnus et salués par la critique, voyagent dans le monde et sont traduits en plusieurs langues. Parle-nous un peu du livre. Comment s'inscrit ce nouveau recueil dans ta démarche artistique? Le recueil se veut une exploration d'un nouveau genre littéraire qui transmet tout de même les éléments principaux de ma démarche artistique et littéraire à long terme. Comment redonner un intérêt au patrimoine immatériel que représentent les Atanoukan? Comment recentrer les principes de l'oralité traditionnelle en écriture? Comment transcender les traumatismes par le réalisme magique à revendiquer dans nos histoires? Je me questionnais sur la connaissance que j'avais acquise par la transmission des légendes traditionnelles de mon peuple. Je m'étais rendu compte que j'en connaissais peu. Par contre, je connaissais beaucoup d'histoires orales des légendes urbaines ou communautaires, des croyances populaires qui me fascinaient ainsi que les rêves de la nuit qu'on se raconte. J'ai puisé dans ma fascination pour ces récits quotidiens et d'autres récits plus anciens pour construire Canatout. La première chose qu'on remarque, c'est que tu as choisi de placer les histoires dans des cadres contemporains. Pourquoi c'était important pour toi? Lors de ma recherche et dans mes conversations avec d'autres porteurs culturels, chercheurs ou conteurs innus, j'entendais souvent ce même enseignement. Quelle que soit l'époque où le récit traditionnel est raconté, il comporte toujours des clés pour comprendre le présent. Ces Atanoukan ont commencé à avoir une plus grande présence dans ma vie et dans mon quotidien. Je voyais mieux l'impact des pensionnats et d'autres politiques d'assimilation passées sur la fragmentation des récits traditionnels et de la connaissance que mon peuple, surtout les gens de ma génération, peut en avoir. L'importance de sauvegarder ces récits devenait pour moi de plus en plus évidente, pertinente, capitale, puisque tous nos savoirs traditionnels sont transmis par le biais des Atanoukan. Si un peuple perd ses légendes, il perd une grande partie de sa mémoire, mais aussi de son identité. Je me suis alors posé deux grandes questions. Que se passerait-il si les créatures des légendes existaient réellement et que feraient-elles aujourd'hui si personne ne prenait soin de continuer à raconter ces légendes et à sauvegarder notre culture et notre langue? Ma théorie, elles sortiraient de leur cachette et trouveraient un moyen d'entrer en contact avec les Inuits. J'ai donc eu envie de raconter à ma façon ce que, j'imagine, serait leur voie d'entrée dans la vie de mes personnages. Forcément, l'idée d'avoir des protagonistes contemporains était aussi celle de pouvoir mettre en scène, selon ma vision et mon interprétation des récits, l'apport du traditionnel dans le quotidien des Inuits. C'était aussi, tout simplement, pour remettre en perspective dans le moment présent, Anoutchich Kashikat des sensorialités que les Atanoukan nous ont transmises il y a longtemps via nos ancêtres, les Tiachinuat et Nikaneshinan. Quelques nouvelles s'écartent du modèle du conte ou de la légende Innu pour explorer l'ailleurs, la Nouvelle-Zélande, Hawaï, le Groenland. Est-ce le reflet d'une conscience autochtone globale ou planétaire? Même si au départ j'ai vraiment eu envie que le recueil se passe seulement sur la côte nord, je me suis rappelé rapidement que ma relation avec ma culture et l'Innu Aitun a été forgée, entre autres, par mes grands-parents, mais aussi par toutes mes rencontres avec des porteurs culturels autochtones d'ailleurs sur le globe. De par les récits traditionnels que j'ai reçus au cours de mes voyages dans quelques pays bien précis, une nouvelle vision du monde s'est dessinée en moi et ma relation avec celui-ci s'est transformée à partir de ces différents moments. Il devenait donc de plus en plus nécessaire pour moi d'intégrer au cœur de ces nouvelles de nouveaux lieux où résonne tout autant l'oralité de tous nos peuples. Connaître ces récits traditionnels, ces Atanoukan dans l'aujourd'hui, c'est refonder sa place dans le monde et participer à reconfigurer son identité et celle de son peuple sur la planète. C'était pour cela que je voulais élaborer un recueil comme Kanatout. Être autochtone, c'est aussi faire partie d'une immense population présente partout sur la Terre et qui, malgré les distances, se ressemble dans ses visages, ses traditions, ses philosophies, entre autres choses, et surtout dans son rôle de gardienne de la planète et de la mémoire de l'humanité. C'était Natacha Canapé-Fontaine, Kanatout, une entrevue réalisée par la rédaction, parue en juin 2024 dans Je lis autochtone.
Un pas de plus vers un Nunavut autonome. Un texte de Karine Lavoie, paru le 31 janvier 2024 dans le Nunavoie, le journal des francophones du Nunavut. Le gouvernement du Canada, le gouvernement du Nunavut et la Nunavut Tungavik Incorporated ont signé le 18 janvier l'entente finale sur le transfert des responsabilités au Nunavut. Jusqu'à ce jour, le Nunavut était le dernier territoire qui ne disposait d'aucun contrôle sur ses propres terres et ressources. Cette étape a été franchie au Yukon en 2003 et dans les territoires du Nord-Ouest en 2014. Le 18 janvier 2024, Justin Trudeau, premier ministre du Canada, était de passage à Iqaluit pour la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut, ce qui représente une étape majeure dans l'histoire du territoire. Par cette entente, qui est le résultat de nombreuses années de travail, le Nunavut pourra désormais prendre des décisions sur la façon dont le territoire utilise les terres publiques, l'eau douce et les ressources non renouvelables. Le premier ministre était entouré pour l'occasion du ministre des Affaires du Nord, Dan Van Dahl, le premier ministre du Nunavut, P.G. Akigok, et la présidente de Nunavut Tongavik Incorporated, NTI, Aluki Kotiark. Des dirigeants inuits, des dignitaires et des résidents de la région étaient présents pour cette journée mémorable qui s'est terminée par une célébration ouverte à la communauté à l'hôtel Aksarnit. Un processus long et complexe. L'entente finale sur le transfert des responsabilités au Nunavut prévoit le plus important transfert de terres de l'histoire du Canada. Depuis la création du territoire en 1999, le gouvernement fédéral fait avancer le processus du transfert des responsabilités au Nunavut en vertu de la loi sur le Nunavut. Le protocole de négociation du transfert des responsabilités a été signé en 2008 sous la forme d'une entente cadre en vue d'orienter le processus de transfert des responsabilités. La préparation nécessaire pour un processus de négociation aussi important prend beaucoup de temps, explique Karine Vedvutanapilboul, porte-parole des Affaires du Nord. Les parties ont entamé les négociations en 2014 avant d'en arriver à un consensus sur une entente de principe en 2019. Cette entente de principe avait constitué une importante avancée à l'égard du transfert des responsabilités au Nunavut. En 2020, les parties en étaient arrivées à une entente concernant une stratégie transitoire de développement des ressources humaines. Nous y sommes parvenus grâce aux solides relations de collaboration que nous avons établies avec le territoire et la Nunavut Tongavik Incorporated, afin de créer des emplois, des investissements et des possibilités de transformation pour les Nunavummiut. Alors que nous parcourons ce chemin commun de la réconciliation, les décisions les plus importantes qui auront une incidence sur le Nunavut seront prises au Nunavut et elles seront prises par et pour ses habitants, a affirmé par voie de communiqué Justin Trudeau. L'entente tient compte des besoins, des priorités du Nunavut et les appuie. Les décisions finales concernant l'utilisation des terres publiques et des ressources seront prises au Nunavut et non à Ottawa, ce qui permettra aux Nunavut-Miut de mieux contrôler le rythme du développement et de maintenir la gérance de l'environnement. Ce transfert des responsabilités permettra également de créer des emplois, des possibilités et des investissements dans le Nord et d'accroître la prospérité du Nunavut et de ses habitants pour les générations à venir. Nunavut, en Inuktitut, signifie « notre terre ». Sa création, en vertu de l'accord du Nunavut, était une étape cruciale pour permettre aux Inuits d'exercer un contrôle significatif sur l'avenir de leur patrie. Au cours des 25 années qui se sont écoulées depuis, Nunavut Tongavik Incorporated a travaillé activement à la réalisation de cet objectif et nous célébrons aujourd'hui ce jalon important dans notre parcours, s'est exprimé par voie de communiqué Aluki Kotiark, présidente de NTI. 3 années de transition. La collaboration entre les instances se poursuivra au cours des 3 prochaines années afin de mettre en œuvre le transfert des responsabilités qui se terminera d'ici le 1er avril 2027. Les prochaines étapes comprendront l'élaboration et l'adoption d'une loi ainsi que le transfert des ressources humaines, du financement et des actifs nécessaires pour permettre au gouvernement du Nunavut d'assumer les rôles et responsabilités connexes. Le processus de transition législatif sera entamé après la signature de l'entente sur le transfert des responsabilités liées aux terres et aux ressources du Nunavut et se fera en parallèle avec le gouvernement du Nunavut. La majorité de ces efforts sera mise en œuvre par le gouvernement du Canada et consistera à abroger ou à modifier les lois existantes, alors que le gouvernement du Nunavut aura principalement à reproduire les dispositions législatives fédérales, précise Karine Vetsuvatanepipul. Les terres et les droits relatifs aux eaux seront transférés du gouvernement fédéral au commissaire du Nunavut au moyen d'un décret, qui entrera en vigueur conjointement avec les dispositions législatives fédérales qui viendront modifier, abroger ou remplacer la loi sur le Nunavut Canada, conformément à l'entente sur le transfert des responsabilités, ajoute-t-elle. Afin d'assurer une transition harmonieuse, certaines mesures ont été prises. Parmi celles-ci, un plan dédié au développement des ressources humaines sur une période de 5 ans a été mis au point. Un financement supplémentaire a aussi été accordé afin d'élaborer et de mettre en œuvre des formations ciblées aux Inuits et aux Nunavummiut avant et après la date du transfert. C'était un pas de plus vers un Nunavut autonome, un texte de Karine Lavoie, paru le 31 janvier 2024 dans le Nunavoie, le journal des francophones du Nunavut.
Recommandations musicales. Des recommandations de Béatrice Dear, Alexis Volant et Soleil Launière, parues en juin 2024 dans le carnet Je lis autochtone. Recommandations de Béatrice Dear, figure incontournable de la pop Inwindi. Béatrice Dear est une autrice-compositrice-interprète basée à Montréal. Moitié Inuk, moitié Mohawk, Béatrice est née et a grandi au Nunavik, au Québec, dans le petit village de Kwaktak. Elle a sorti 7 albums studio et publié un album jeunesse illustré par DJ Aaron, traduit en français aux éditions Aninorak. On y raconte l'histoire, inspirée d'un conte traditionnel inuit, d'une renarde qui découvrira la vie d'une famille nomade au fil des saisons et des années, jusqu'à devenir la protectrice du fils aîné. J'ai 2 super artistes inuits à recommander à vos lecteurs et lectrices. D'abord, Terry Ouyarak, originaire d'Igloolik au Nunavut, qui a lancé un premier album, Nunarjua Isulin Jinyani, en 2020, et qui vient de lancer son 2e album, intitulé Unwak. Le folk rock de Terry est comme un voyage en traîneau à chien dans les grands espaces du Nord. Les paroles de ses chansons sont profondes et pleines de sagesse. On sent aisément la fierté qu'il éprouve envers sa culture. Ensuite, je voulais vous parler de Juhu Rini, un chanteur originaire de Kujuak au Nunavik. Après plusieurs simples et micro-albums, il a sorti un premier disque qui s'appelle Saiman Nirmut, ou Périple vers la paix. La musique de Juhu Rini est catchy et réjouissante. Pas besoin de comprendre l'inuktitut pour apprécier la joie et le bonheur qui irradient dans chacun de ses mots et chacune de ses notes. Recommandation d'Alexis Volant. Alexis Volant est un jeune Innu de la communauté de Pessamit sur la côte nord. Il étudie le piano et le chant classique en Colombie-Britannique. Dans son premier recueil de poésie, il fait entendre la voix intérieure d'une jeune Innu de Pessamit qui cède à l'entêtement de son conjoint montréalais, désireux de vivre le temps d'un été, le folklore et l'exotisme d'une communauté autochtone, ce qui entraînera chez elle bien des questionnements identitaires. Andrew Balfour est un compositeur cri originaire de Winnipeg, au Manitoba. En raison du 60s scoop, Andrew a été retiré de sa famille à un très jeune âge. Durant son enfance, sa famille adoptive d'origine écossaise lui a permis de s'initier à la musique anglicane et au chant choral. Après plusieurs années de péripéties musicales, il a fondé l'ensemble Dead of Winter, anciennement Camerata Nova, et sa carrière de compositeur remonte aux années 1990. Andrew a travaillé avec plusieurs ensembles, dont Musica Intima et le Vancouver Chamber Choir. MB est un chant d'accueil adapté de la pièce Gloria in Excelsis Deo du compositeur anglais Thomas Wilkes, 1576-1623. Le texte de remplacement, cadeau de Corey Campbell, peut être traduit comme suit. « Venez, être à deux jambes, il fait bon vivre ici. » La musique de la Renaissance n'a jamais été aussi festive et jubilatoire. Le compositeur a marié un style colonial à un texte traditionnel de façon remarquable. Recommandation de Soleil Launière. Originaire de Mashteuiatch, communauté Innu, Soleil Launière vit et œuvre à Tiotiake, Mouniang, Montréal. Artiste transdisciplinaire alliant le chant, le mouvement, le théâtre, la poésie, l'installation et l'art performance, elle utilise sporadiquement le multimédia expérimental pour faire ressentir les entremondes spirituels. Elle a aussi écrit le livre « Acouteux, suspendu » en langue innu. Tout en poésie, elle raconte le vertige d'être en perpétuelle suspension entre la fierté et la honte, entre les mondes du visible et de l'invisible. Elle exprime ainsi la légitimité de parler au nom des siens et la quête identitaire qui s'ensuit. Je recommande, peut-être sans grande surprise, le dernier album de ma grande amie et sœur de cœur, Willows. Nous nous sommes rencontrés il y a 5 ans, lors d'une résidence musicale. Sans nous connaître, nous avons plongé dans la création et nos voix. Comme deux ancêtres ayant déjà dansé ensemble, se sont entremêlés parfaitement. J'ai eu le coup de foudre non seulement pour sa voix, mais surtout pour la personne incroyable qu'elle est. Willows est une artiste métisse de la Rivière-Rouge, d'origine franco-manitobaine. Inspirée par les paysages d'où elle a grandi, elle nous offre un son folk bien à elle. Son album « Maison Vent », tout comme le mien, « Acouteux », est perché entre les cultures. Sa musique parle de passage, mais surtout du lien si profond que nous avons avec nos matriarches. Et que dire de son écriture sensible et de sa voix envoûtante? Fermez les yeux et laissez-vous emporter. C'était « Recommandations musicales », des recommandations de Béatrice Deer, Alexis Volant et Soleil Launière, paru en juin 2024 dans le carnet « Je lis autochtone ».